Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Débat, une émission qui se passe ici à Téhéran sur les plateaux de Presse TV français. Aujourd'hui, une actualité, la Syrie. En effet, ces derniers jours, il y a eu des altercations entre les Américains et les Syriens, notamment l'armée syrienne, mais pas que. Les informations sont extrêmement floues puisque l'actualité européenne présente ça comme un échange de roquettes réalisé par les Iraniens et les Américains. En gros, c'est un échange tout petit. Ce sont des tirs qui n'ont eu aucune conséquence et pourtant l'actualité au Moyen-Orient est bien différente puisqu'on parle ici de feux de missiles de drones pour la seconde nuit contre les bases US à El Omar et à Conoco. Donc une actualité très différente, décrite de manière différente, et c'est aujourd'hui le sujet de notre débat. Pour vous faire un briefing rapide, alors il y a eu un combat de corps à corps, il y a eu pendant deux nuits donc des échanges de tirs, notamment de drones. On parle également de la réaction d'avions de chasse de la part des Syriens et des Russes pour complètement bloquer le côté air, l'espace aérien du côté syrien, afin que les Américains et les Israéliens n'interjettent pas et ne tirent pas et ne fassent pas venir leurs propres avions de chasse. Donc on en est à une interaction directe avec les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie? La Syrie, ces derniers temps, ce dernier mois, on en a beaucoup parlé. Il y a eu notamment la réunion à Téhéran entre Poutine, Raisi et Erdogan. Erdogan a rebroussé chemin dans ses propos puisqu'il parlait il y a un mois de prendre l'attaque la Syrie, d'attaquer la Syrie. Il demandait l'aide à ses partenaires. Il n'en trouvait pas. Et là, c'est différent. On parle depuis plusieurs semaines d'Erdogan qui veut faire la paix avec Assad. Erdogan fait un pas vers Damas. Erdogan ne pense plus à attaquer. La Syrie, ce dernier mois, est dans l'actualité de partout, que ce soit dans l'actualité iranienne, dans l'actualité turque, mais également américaine. Nous allons voir un petit reportage qui vous fait un petit briefing concernant le sujet. Et par la suite, nous aurons nos deux invités, comme le veut notre programme Débat.
Dans la nuit de mercredi à jeudi 25 août, à peine quelques heures après que Biden, a eu la très mauvaise idée de titiller la résistance sur la rive est de l'Euphrate et de bombarder Dixit, le porte-parole du CENTCOM, quelques 11 bunkers appartenant au groupe pro-iranien, non loin de leur position à Al-Mayadin, et puis de le faire au bout de 400 heures de surveillance rapprochée pour éviter qu'il n'y ait pas de perte dans le camp d'en face, et partant une rage d'enfer à s'en venger contre les 900 officiers US répartis entre Homs, Deir ez-Zor et Asakeh, cette même rage s'est abattue sur l'US Army. Que s'est-il passé au juste? Vers 19h, heure locale, des drones kamikazes de la résistance, visiblement de type Shahed 136, ont pris d'assaut le QG US et les dortoirs de soldats à l'intérieur de la base US à Al-Omar, provoquant pas moins de 7 déflagrations qui ont suivi aussitôt des missiles tactiques FAT ou BM-120. Était-ce tout? À la différence de précédents raids, l'attaque ne fut qu'une première d'une série de 3 étalées sur une zone d'un kilomètre entre la base illégale US à Al-Omar d'une part et cette autre garnison américaine plus au sud. En effet, un second barrage de feux balistiques à missiles FAT est parti simultanément sur Conoco, cette station de gaz d'où les pilleurs US tirent depuis 2016 et sans relâche quelques 30 millions de mètres cubes de gaz chaque année au nez et à la barbe des Syriens qui font la queue, une dizaine d'heures par jour, pour faire le plein. Le coup a-t-il été létal? Visiblement oui, car même si ce jeudi matin, le chef du Pentagone, le général Austin, ne reconnaît que 3 blessés légers, Saber News, chaîne irakienne pro-résistance, elle, parle d'un véritable chassé-croisé balistique. Au cœur des 2 bases US à Deir ez-Zor occupées, à savoir Al-Omar et Conoco, avec en toile de fond, des hélicos Apache US évacuant d'une part morts et blessés Yankees vers l'Irak voisin et de l'autre tentant autant que faire se peut de cibler des bunkers vides. Quant à l'effet anti-escalade prétendu dans le communiqué que l'Amérique ne se mente pas et appelle un chat, la frappe du mercredi soir en Syrie a provoqué le ciblage d'un convoi militaire US ce jeudi matin en Irak, deuxième en 24 heures. Et cela ne fait que de commencer. Le commandant en chef du CENTCOM, Kouria, haussant le niveau d'alerte en Syrie, et en Irak.
Donc rebonjour, nous revoilà sur le plateau de Presse TV français. Nous allons accueillir donc nos deux invités du jour pour parler du sujet de la Syrie. Alors bonjour à Madame Aïssar Midani, sur notre plateau ici virtuellement, analyste franco-syrienne qui se trouve actuellement à Damas. Bonjour Madame.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe. Mais je vous entends très mal avec beaucoup de bruit.
C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. On va essayer de faire quelque chose pour le son. De l'autre côté, nous avons donc le Luc Michel, géopoliticien, qui se trouve, lui, en Belgique et qui lui-même est très actif dans le domaine de la géopolitique. Bonjour, monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous, à votre plateau. Surtout, madame Midani, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
C'est pour nous aussi un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la Syrie. Hein. Vous n'êtes pas étonné après ce qui est en train de se passer actuellement en Irak et en Syrie, les attaques de deux jours. Alors, madame Midani, si ça ne vous dérange pas, on commencera par vous. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que sont vos échos à vous concernant la situation actuellement en Syrie?
Bonjour. Bonjour à votre invité. Merci de votre invitation. Je ne sais pas si nous avons bien commencé le débat, l'émission, là, mais il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'écho. Alors, je vous entends très mal et puis sans doute vous m'entendez très mal. Pour la Syrie, alors la situation est très tendue du côté à la fois du nord et du côté de la ville de Tartous et de Hama, Tartous et Hmeymim. Hier soir, il y a eu une attaque au missile, en fait, une attaque israélienne. La plupart des missiles ont été interceptés, mais quand même, il y a eu deux morts et des blessés, mais aussi des incendies dans des endroits assez, assez importants. Bien sûr, l'armée arabe syrienne s'est empressée de s'occuper de tout ça et puis de réagir. En même temps, en fait, du côté de la Turquie, il y a des agressions aussi sur les frontières turques, Tel Rifat, Rasetin, etc., Raselain, pardon. Et ils continuent à agresser la population, ils envoient des missiles et des projectiles sur la population visant à la faire partir et faire un changement démographique. Hein. Du côté de la base, des bases syriennes, en fait, sur les puits de pétrole et de gaz, Al-Omar et Comeco, il y a eu aussi, il y a par contre, là, c'est des réactions de la population, de la résistance populaire, en fait, qui à la fois s'attaque aux bases américaines et aux bases turques. Il y a eu aussi un grand rassemblement des tribus et des personnes des habitants d'Al-Jazeera, en fait, qui est la région nord-est. Hein. Et ce rassemblement a eu lieu à Alep, en fait, regroupant des gens d'Erzur, d'Alep, etc. Dans ce rassemblement, la population non seulement proteste contre la présence et l'occupant américain et turc, mais aussi rassemble leurs forces pour continuer une résistance populaire, pas seulement continuer, mais aller aussi vers de meilleures coordination et puis une plus grande résistance populaire de l'ensemble de la population, quelle que soit d'ailleurs à la fois ses croyances, ses ethnies, etc. Je voudrais là-dessus souligner le fait que en Syrie on est toujours citoyen d'abord et puis il y a après, il y a tout un tas de spécificité, en fait, à la fois ethnique et puis de croyance. La Syrie a toujours été un pays complètement, je dirais, citoyen et laïque, en fait. Donc, c'est très important. Et là, c'est une réponse. C'est une réponse à tous ceux qui veulent absolument parler de Kurdes, parler de, d'Arabes, etc. En Syrie, on est tous, les Kurdes font partie du tissu national syrien, mais ce n'est pas parce que quelques Kurdes traîtres hein, ou qui sont venus de l'étranger qui dirigent le mouvement FDS, qui n'est pas d'ailleurs que kurde, mais ce sont des gens qui sont vendus, dépêchés par les Américains et par les Turcs.
Merci, Madame Midani.
Qui viennent de Wadi Kandil et qui dirigent ce mouvement qui devient l'appui particulier des États-Unis pour agresser la région.
Merci, Madame Midani, pour ce point concernant la Syrie. Donc, je vous rappelle ce qui se passe en Syrie depuis 48 heures à 72 heures. Des attaques permanentes sont en train de se dérouler, notamment contre des bases américaines. Il faut savoir quand même que ce sont les Américains qui ont commencé en attaquant des cibles qu'ils ont dit pro-iraniennes, mais cela a été réfuté par le gouvernement iranien. Et par la suite, tout s'est aggravé puisqu'il y a eu des attaques directes contre les bases américaines. Monsieur Luc Michel, vous êtes là-bas à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on dit actuellement là-bas en Europe concernant cette attaque? Est-ce qu'on en parle tout simplement?
Écoutez, on n'en parle absolument pas. Toute l'attention est focalisée sur l'Ukraine et on ne parle pas de ce qui se passe dans les autres théâtres d'opération. Un tout petit peu de la mer de Chine et pas du tout sur la Syrie. Ce qu'il faut constater, c'est qu'on est rentré décidément dans une nouvelle ère géopolitique. Aujourd'hui, c'est la Russie qui impose une zone d'interdiction aérienne aux Américains, eux qui ont voulu les imposer depuis 30 ans au reste du monde. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que Erdogan continue sa politique de coups de poker et d'opportunisme. Il est indispensable aux Américains sur l'Ukraine et il en profite pour mener des coups de poker géopolitique en Syrie. Il n'est plus considéré comme fiable par les Américains parce que Poutine a réussi à fracturer le bloc occidental. Il a apparemment renoncé à sa grande offensive contre le Kurdistan et les Américains ne se fient plus aux Turcs. Ils cherchent donc des prétextes pour maintenir une présence militaire offensive sur le nord de l'Euphrate et garder leur contrôle sur les Kurdes du PKK. Ne pas oublier que le contrôle américain qui existe depuis plus de 10 ans sous prétexte de la guerre civile syrienne qui a été lancée par les Américains eux-mêmes, elle permet aux Américains d'accaparer les ressources gazières et pétrolières syriennes qui sont volées à l'État syrien.
En effet, donc Luc Michel, vous parlez notamment donc on a estimé, il y a eu une estimation qui s'est faite concernant le vol de 66 000 barils par jour de pétrole en Syrie, un vol qui a été dénoncé par Damas, qui a également été souligné par différents gouvernements. Également, une des raisons, Madame Midani, vous parliez de la résistance à côté des puits de pétrole, mais vous n'avez pas dit que c'était seulement la résistance, c'était le peuple, un peuple, vous avez dit, civique, on va dire aussi nationaliste, si je puis dire. Donc, la résistance et la Syrie, on a marre de ce vol.
Tout à fait. Tout à fait.
Allez-y,
vous adressez à moi.
Oui, c'est pour vous. Allez-y.
Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a un vol systématique de nos ressources alors que les Syriens meurent de froid et puis on n'a plus d'essence pour pouvoir circuler, etc. Tout un tas de choses, tout un tas de difficultés quotidiennes, mais aussi des difficultés quotidiennes concernant l'alimentation, puisqu'ils nous volent aussi nos céréales et ils brûlent les champs, les récoltes aussi. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il est important de voir, je reviens un petit peu sur le plan politique et stratégique, alors je vois que Erdogan, il s'affole, Israël s'affole, mais tout le monde s'affole en fait, parce qu'Israël s'affole du fait que les Américains sont prêts à signer ou disent qu'ils sont prêts à signer l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Donc, ils s'activent tous les deux pour attaquer la Syrie, pour soi-disant s'attaquer aux bases iraniennes en Syrie. Ça a été toujours le discours des Israéliens quand ils bombardent la Syrie. Ils veulent bombarder les soi-disant bases iraniennes, alors que tout ça, c'est du pipeau, c'est faux. En Syrie, nous avons des experts iraniens qui nous aident à fonctionner, mais en fait, il n'y a pas de base iranienne et c'est complètement du bluff médiatique, hein, d'une part, et puis d'autre part, c'est pour porter atteinte, en fait, au moral des gens. Ils essayent d'accentuer cette pression. Mais d'un autre côté, je tiens quand même à montrer la versatilité de ce Erdogan, puisque en même temps, il commence à parler de l'importance du retour à la Syrie, que de toute façon, et du retour à la stabilité dans la région, que la stabilité ne peut avoir lieu que si on traite d'égal, en fait, tous les deux, avec le pouvoir syrien. Il a apparemment fini par accepter sa défaite, en fait, la défaite de son plan des frères musulmans, qui était de casser la Syrie et de mettre un groupe de frères musulmans à la tête, mais qui vouent allégeance à la Turquie. Donc, bon, de la voix du ministre des Affaires étrangères et d'Erdogan même, récemment, qu'ils veulent retourner au dialogue, etc. Par contre, il faut quand même savoir que ce qui est le lendemain de la rencontre très importante qui a eu lieu à Téhéran avec Poutine et puis le président iranien, même l'ayatollah Khamenei qui était là et puis qui l'a rencontré. Et puis la présence, donc c'était la formule Astana, je dirais, sur la Syrie, pour l'apaisement. Et encore une fois, Erdogan a signé et a affirmé qu'il est important de reconnaître l'unicité, l'intégrité de l'État syrien, sa souveraineté, la souveraineté des terres syriennes, et puis la nécessité que l'État syrien exerce tout son contrôle sur l'ensemble des terres syriennes, et la nécessité de lutter contre le terrorisme.
Merci,
Dès le
Madame Idani.
lendemain, les terroristes, des terroristes qui étaient soutenus par Erdogan, ils ont attaqué la Syrie. Donc, c'est cette versatilité d'Erdogan dans sa politique, qui continue à jouer de tous les jeux et toutes les cordes.
Merci, Madame Idani. En effet, vous en avez parlé, Monsieur Luc Michel, concernant la situation d'Erdogan. Il est vrai qu'on voit depuis un mois un changement de politique, puisqu'il y a un mois, on pouvait lire dans l'actualité et on pouvait suivre ses propos qui souhaitaient attaquer la Syrie, chercher des partenaires pour pouvoir réattaquer les frontières entre la Syrie et la Turquie. Et là, après le 19 juillet, date à laquelle a eu le sommet à Téhéran, qui c'est une forme de Astana 2, d'accord? Donc le 19 juillet, après le 19 juillet, aux alentours du 20, M. Erdogan change de discours et indique qu'il veut faire un pas vers Damas. Non seulement un pas se fait, puisque leurs ministres des Affaires étrangères se rencontrent, mais là, va y avoir une rencontre entre, en fait, on estime, étant donné qu'il va y avoir le sommet de l'OCS, une rencontre éventuelle entre Assad et Erdogan. Qu'est-ce que vous avez parlé de la versatilité de Erdogan. Est-ce que vous pensez que cette versatilité va finalement vers le Moyen-Orient et non plus vers l'OTAN et les États-Unis?
Écoutez, Erdogan, c'est un joueur de poker. Ce n'est pas un stratège ou un géopoliticien. Et il rappelle un peu le Donald Trump de la présidence Trump. Mais je pense qu'il a constaté qu'il avait perdu la partie en Syrie et que la protection des frontières turques du PKK ne sera plus assurée par les Américains par un accord avec le gouvernement de Damas et la Russie. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Erdogan n'est pas un allié de la Russie. Il est encore moins un allié de Téhéran, où il est à juste titre considéré comme un ennemi. Il faut simplement utiliser cette versatilité. Erdogan aujourd'hui sait qu'il est indispensable en Ukraine pour le soutien à l'Ukraine en mer Noire et au gouvernement Zelensky, et il en profite pour retirer des avantages au Proche-Orient. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette affaire. Au XIXe siècle, on parlait d'une telle politique quand elle était menée par le sultan ottoman. On parlait de la duplicité levantine. Aujourd'hui, il y a une duplicité néo-ottomane d'Erdogan. Mais évidemment, tout cela est un facteur d'instabilité pour tout le Proche-Orient.
Madame Midani, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'Erdogan a un autre but autre que la Syrie, c'est-à-dire que pour lui, peut-être, sont envisagées plutôt les élections, parce qu'on dit Erdogan peut-être perdant. Les réfugiés syriens posent problème également, c'est une donnée, parce que la Turquie est en pleine crise économique, le pain est cher donc forcément pour les réfugiés aussi, ça revient très cher, le fait d'accepter des réfugiés et de les garder surtout. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même qui êtes actuellement à Damas en Syrie ?
Erdogan, effectivement, est en pleine crise politique et tous les sondages montrent qu'il a beaucoup baissé et que s'il continue au niveau de la politique qu'il avait il y a 15 jours, il serait perdant. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une rectification alors qu'il annonçait une rectification réelle. Parce qu'avant, en fait, son programme, c'était zéro problème avec le voisinage. Or là, il n'a que des problèmes avec les voisinages. De là, on l'a vu aller vers l'Arabie saoudite, vers l'Égypte, et il tient ce discours vis-à-vis de la Syrie. On l'a vu aussi renouer avec Israël, etc. Donc ça, c'est pour améliorer son image au niveau des pays de la région, d'un côté. De l'autre côté, vous l'avez bien souligné, il y a une crise en fait concernant les réfugiés syriens qu'il pensait avoir pour quelques mois parce qu'il pensait que l'État syrien allait s'écrouler en quelques jours et qu'ils allaient revenir chez eux et c'était fini, on n'en parle plus. Or là, il se retrouve avec un nombre important de réfugiés qu'il avait déjà encouragés et où il y a quand même aussi la population, le peuple turc commence à s'en plaindre. Troisième point, il y a aussi, sachez qu'il a amené les terroristes dans la région. Le terrorisme est venu en Syrie par la portière turque. Donc, ils ont été accueillis en Turquie. Ils sont passés aussi par les frontières de la Turquie et ils sont en Syrie soutenus par la Turquie. Et en fait, là, donc, il y a toute cette gestion de 40 ou 50 factions terroristes qui sont aux frontières syriennes et turques. En fait, c'est du côté d'Idlib, du côté d'Alep, etc., et tout le long de la frontière. C'est lui qui prétend lutter contre le terrorisme, c'est lui qui les dirige, c'est lui qui alimente ce terrorisme. Donc, effectivement, ça commence aussi à déplaire profondément à la population en Turquie. Et sachez quand même que l'opposition turque mène un combat très, très important contre Erdogan dans ce sens, parce qu'ils veulent récupérer la stabilité de la région, et puis des rapports plutôt tranquille avec la Syrie, comme c'était le cas avant que Erdogan n'ait entretenu ce plan d'attaque contre la Syrie pour ses alliés, l'OTAN. Il faut le dire quand même, l'OTAN, la Turquie est un membre de l'OTAN, donc ce plan, c'est un plan américano-sioniste, mais auquel la Turquie a adhéré pour ses propres objectifs. Donc, et continue d'ailleurs. Mais maintenant, clairement, on voit qu'au niveau mondial, il y a un changement. La résistance de la Syrie a effectivement changé le monde et qu'avec la Syrie, avec cette résistance de la Syrie, la Russie est devenue une force internationale, l'Iran une grande force régionale et la Chine aussi. Donc maintenant, ils commencent à essayer d'avoir un pied de chaque côté pour pouvoir assurer ses arrières et reprendre les amitiés, entre guillemets, avec le camp gagnant à l'issue de cette guerre, de cette confrontation, je dirais, l'OTAN avec la Russie en Ukraine.
Merci, Madame Midani.
Voilà.
Merci, Madame Midani. Donc, comme vous l'avez dit, on parle de résistance. La résistance à l'heure actuelle est, je pense, on peut dire, très active. On pense notamment à la date de septembre que la résistance libanaise a indiquée concernant leurs propres problèmes avec Israël. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous pensez que ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie est également en lien avec toute la résistance qui existe à l'heure actuelle au Moyen-Orient ?
Oui, bien entendu, l'axe de la résistance, c'est aussi aujourd'hui une réalité géopolitique qui pratique la guerre hybride. La guerre hybride, elle a été inventée par l'Iran en 2006 au Liban et pas, comme on le croit souvent, par les Russes en 2013 en Ukraine. Il y a un front qui passe par le Hezbollah, la Syrie avec les comités de défense populaire, avec l'Iran, avec Ansar Allah au Yémen, avec les comités politiques au Bahreïn, mais aussi avec des pays africains. Il y a l'implantation des accords militaires entre l'Iran et le Mali ces derniers jours. Tout cela fait que l'axe de la résistance aujourd'hui, c'est une réalité mondiale qui va d'ailleurs jusqu'en Amérique latine, puisqu'il y a un Hezbollah qui est présent au Venezuela. Il faut comprendre que, d'une chose, cette réalité de l'axe de la résistance que les Américains n'ont pas réussi à détruire, c'est pour ça qu'ils ont imposé comme condition pour revenir aux accords de Genève que l'Iran renonce à la politique de l'axe de la résistance. Ils n'y arriveront pas. La seconde chose, il faut comprendre quels sont les fondements de la géopolitique d'Erdogan. Erdogan, tout d'abord, c'est une réussite économique. Il a offert la prospérité économique à la petite bourgeoisie musulmane turque. Aujourd'hui, c'est un échec. L'économie turque, elle est en train de s'effondrer et la livre turque est en train de s'effondrer. Mais fondamentalement, la Turquie est obligée d'agir dans le cadre du parapluie américain. Ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire la volonté de reconstituer une sphère de prospérité turque, ça ne peut se faire que dans le cadre des projets géopolitiques américains.
Merci, Luc Michel. Je vous remercie. Merci, Luc Michel.
Printemps arabe de 2011, printemps africain de 2014.
Merci beaucoup, Luc Michel, pour votre intervention. Merci beaucoup à Madame Midani de Damas pour votre intervention. C'est ici que se finit le débat d'aujourd'hui, un débat riche qu'on pourrait parler pendant des heures, parce qu'à l'heure actuelle, le Moyen-Orient est en train de réagir, la résistance s'est éveillée et ces derniers jours en est la preuve. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission Le Débat. Je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre sujet. Ici Téhéran, Presse TV français.